Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Ce qu'on appelle les grandes cultures chez nous, en fait, ce sont essentiellement des céréales, des oléagineux ou bien des productions qui se cultivent sur des surfaces assez importantes. Un grand culteur ou un producteur de grandes cultures, en général, a une exploitation qui va de 100 à 200 hectares. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça grande culture, par opposition, par exemple, au maraîchage qui se fait sur des petites surfaces.
Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de la campagne 2019-2020 des grandes cultures en France. Dans cette catégorie des grandes cultures, les céréales occupent une place prépondérante avec 61% du territoire agricole contre seulement 14% pour les oléagineux. Et les trois principales céréales sont le blé, l'orge et le maïs.
On va vous présenter un petit peu pour commencer totalement la situation catastrophique dans laquelle la récolte vient de se finir. Donc Philippe vous fera un peu tout le bilan de cette situation-là qui est aussi issue de plusieurs années extrêmement difficiles. Voilà, c'est pour le propos introductif et sans attendre, je te laisse la parole Philippe.
Après ce bref tableau, la situation des producteurs français au sortir de la dernière campagne agricole. Nous sommes conviés au siège parisien de l'Assemblée générale des producteurs de blé. D'emblée, les agriculteurs vous disent que la dernière moisson a été catastrophique. Avec une production de 29 700 000 tonnes, ils précisent que c'est la pire récolte depuis 20 ans. Et plus de 50% des producteurs ne dégageront pas de bénéfices cette année. Après la conférence, nous avons recueilli plus de précisions avec Philippe Euzel, agriculteur en Seine-et-Marne et secrétaire général de l'AGPB.
Alors l'Association Générale des Producteurs de Blé, l'AGPB, effectivement, c'est une association qui dépend de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, la FNSEA. Donc c'est ce qu'on appelle une association de filière, en quelque sorte, donc qui est là pour représenter les intérêts des producteurs de céréales. Nos productions représente plus de la moitié des surfaces cultivées en France, donc plus de la moitié des terres labourables, mais aussi, on va dire, pour la balance commerciale française, c'est un secteur important, puisqu'on est le troisième secteur positif à l'exportation pour la balance commerciale française.
D'accord. Nous sommes là, vous nous avez invités pour parler du bilan de la récolte qui vient de se passer, 2020. Mm-hmm. Et vous-même n'avez pas eu peur d'employer le mot catastrophe.
C'est juste. Cette année, la récolte 2020 est catastrophique. Elle succède à une très bonne année 2019 en termes de rendement. Mais on a eu plusieurs aléas climatiques qui se sont succédés. D'abord, un hiver très pluvieux qui a empêché une partie des semis. Et ensuite, cet hiver-là est resté doux et a favorisé le développement de ravageurs, d'ennemis de nos cultures. Et puis, derrière ça, dès la mi-mars, dès le confinement, ça a coïncidé avec le confinement, je ne pense pas qu'il y ait de rapport, mais ça a coïncidé. On est rentré dans une période de sécheresse abrupte, jusqu'à maintenant, là on est début septembre. Jusqu'à début septembre, certaines régions ont vu très très peu d'eau, surtout sous nos climats qui sont habituellement tempérés. On n'est pas habitué à avoir des séquences climatiques aussi abruptes que ça. Et donc, l'excès d'eau dans l'hiver et la sécheresse du printemps ont amené déjà des surfaces moindres et puis des rendements surtout très mauvais à l'hectare.
Je vais essayer de décortiquer ce que vous venez de dire parce que là c'est un langage de technicien que vous employez. C'est-à-dire qu'en hiver, il fait froid habituellement. Mm-hmm. S'il y a de l'eau, ça reste dans les hauteurs, dans la montagne, là-bas sous forme de glace et de neige. Il pleut pas, donc on peut semer. Mm-hmm. Mais là, il a beaucoup plu en hiver. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des parties des champs que vous pouviez pas atteindre pour semer. Donc, diminution déjà de la surface emblavée.
C'est cela, oui. L'excès de pluie fait qu'on ne pouvait pas rentrer avec nos matériels dans les champs. Ça collait, etc. Donc, les cultures comme le blé chez nous, ou certaines orges, ou même d'autres cultures qui se sèment à l'automne ou à l'hiver, n'ont pas pu être implantées. Elles ont été, par contre, remplacées, en général, mais pas toujours, par des cultures que l'on sème au printemps, comme des orges de printemps, ou bien des maïs, ou bien d'autres types de cultures, c'est surtout orge et maïs qui ont suppléé le manque de surface en blé, en fait.
Ça, c'est le premier problème. Puis, comme les températures sont restées douces,
voilà,
avec de l'eau,
voilà,
et les ravageurs qui, logiquement, devaient se développer quelques mois plus tard, se sont déjà développés et ont eu plus de temps de faire des dégâts.
Exactement, c'est ça. Notamment les pucerons, des insectes, qui habituellement ne se développent pas l'hiver grâce au gel. Là, on n'a pas eu de gel, on a eu un hiver doux. Donc, il y avait un foyer présent de ces ravageurs qui s'est vite développé et qui a causé beaucoup plus de tort à nos céréales qu'une année normale. Hein.
Ah, le puceron, c'est celui qui pique la tige de la plante et qui suce, là.
Voilà, c'est celui-là qui pique la tige de la plante, mais en piquant la tige de la plante, c'est pas tellement qu'il suce la sève, c'est pas trop un problème, ça, c'est qu'il inocule un virus ou des virus. On en parle beaucoup de virus en ce moment. Pour les plantes, il y a aussi des virus, qui ne sont pas forcément des coronavirus, mais qu'on appelle des virus de jaunisse nanisante. Ce virus-là, quand il est inoculé dans la plante, maintient la plante naine, petite. Elle ne se développe plus. Donc, si on a quelques pucerons simplement, ça ne se voit pas dans une parcelle, mais dès qu'on a beaucoup de pucerons, on a tout l'ensemble de la parcelle qui reste naine et qui produit beaucoup moins.
Et je présume que le puceron, ce n'est pas le seul ravageur.
Non, il y a d'autres ravageurs aussi. On rencontre de plus en plus souvent dans nos cultures des problématiques aussi de mauvaises herbes qui se développent de plus en plus, puisqu'il y a quelques années, on avait la possibilité, on avait un panel de solutions herbicides notamment beaucoup plus large. Maintenant, ce panel de solutions se réduit avec la non-réautorisation d'utilisation de produits, la non-réhomologation. Et donc, on arrive à des situations d'impasse, en fait, pour lutter contre certaines mauvaises herbes qui viennent, au-delà des pucerons dont on parlait, qui viennent limiter le développement de nos cultures. Vous voyez, une mauvaise herbe qui pousse, elle vient concurrencer nos cultures.
Bon, vous dites les choses avec pudeur, mais moi, je ne suis pas un producteur. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des produits chimiques pour lutter sur les herbicides, pour lutter contre la progression de ces mauvaises herbes. Aujourd'hui, la législation dit de diminuer, ou en tout cas, de se passer de ces herbicides et d'aller à une lutte mécanique, ce qui est quand même un peu difficile.
Exactement, c'est ça. On est poussé, pour différentes raisons, à limiter la lutte chimique et le désherbage mécanique dans des parcelles de grandes cultures comme les céréales. C'est pas une culture sarclée, hein, c'est une culture qui couvre tout le sol. Il est très compliqué. Alors, on peut le faire, mais il est beaucoup moins efficace qu'avec la lutte chimique. Et surtout, quand les conditions climatiques sont pas là, on a beaucoup moins de jours d'intervention pour pouvoir faire ce travail-là. Je vous disais que la fin d'hiver, le début du printemps était encore très humide. C'est à ce moment-là qu'il faut lutter contre les mauvaises herbes quand elles sont toutes petites, quand on fait un désherbage mécanique. Or, à ce moment-là, les sols étaient encore détrempés. Et quand la sécheresse est venue et qu'on aurait eu la possibilité de faire du désherbage mécanique, les plantes étaient déjà trop développées pour être efficaces. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, agriculteurs, on est placés devant de plus en plus d'impasses techniques. Ce n'est pas un manque de volonté de notre part de se passer de chimie, si certains nous demandent de se passer de chimie ou de réduire. Mais c'est que, concrètement, on n'a pas d'autres solutions pratiques pour lutter contre les mauvaises herbes ou bien les ravageurs. Et moins on a de solutions, plus on rencontre de difficultés, suivant les années.
Donc vous avez avez ces deux problèmes, puis le printemps arrive, et voilà qu'il y a la sécheresse. Voilà. Au moment où la plante a besoin de pluie.
C'est juste, au moment de la montaison, quand la plante se développe, qu'elle monte, là elle a besoin de lumière, il y en a, d'eau, il y en avait un peu au début puisqu'il était tombé l'hiver, mais avec l'hiver qu'on a eu, l'hiver très pluvieux, on avait un très faible développement des racines de la plante.
Mais elle n'a pas besoin de développer puisqu'elle a de l'eau à disposition.
Eh oui, tant qu'elle en a, ça va. Mais au bout de 15 jours, si elle n'en a plus, à ce moment-là, ses racines ne sont plus capables d'aller puiser l'eau qui est en profondeur. Donc, elle coupe son alimentation et elle limite son développement elle-même.
Hein, donc, c'est elle-même qui fait ça.
Bien sûr, c'est la régulation naturelle des plantes. Donc, surtout les plantes qu'on cultive sous nos climats qui sont adaptés à des climats tempérés. Nous, on n'est pas saison sèche, saison des pluies. On est sur un climat tempéré et c'est rare d'avoir... On dit chez nous, le mauvais temps, c'est le temps qui dure. C'est-à-dire, c'est rare d'avoir 8 jours sans pluie, par exemple, au printemps dans nos régions. Or là, on a eu du 13 mars au mi-mai, donc mars, avril, mai, on a eu 3 mois sans pluie, au moment où les céréales, notamment, en avaient le plus besoin.
Alors, tout cela se traduit par des chiffres que vous avez alignés. Ça fait un peu peur, quand même, parce que vous dites qu'il y a un recul des surfaces emblavées à la sécheresse. Ça fait que plus de 50% des céréaliers ne dégageront pas de bénéfices cette année.
Mmh. Oui, c'est ça. Dans les estimations qu'on fait, plus de la moitié des céréaliers auront même un revenu négatif. C'est-à-dire que ils auront travaillé toute une année pour ne pas pouvoir dégager de revenus pour vivre, et en plus, pour pouvoir assurer aux dépenses de la famille, ils auront puisé dans le capital de leur exploitation.
C'est-à-dire dans les économies d'abord, voilà. Puis dans le capital.
Dans les économies d'abord, et dans le capital ensuite. C'est déjà très frustrant de travailler toute une année et de ne pas pouvoir vivre de son métier, mais en plus, ça ampute les possibilités pour les années prochaines. Hein, puisque, voilà, quand on décapitalise, quand on ne peut pas, par exemple, renouveler son matériel, acheter des intrants pour l'année prochaine, des semences, etc., des engrais, eh bien sûr, on peut penser qu'on va handicaper l'année qui suit aussi.
Avec 29 700 000 tonnes de récolte attendue cette année, vous dites qu'il est à 25% à moins.
Voilà, c'est ça. En moins par rapport à l'année 2019, où on avait produit près de 40 millions de tonnes de blé tendre en France. Hein. Donc là, on est un peu en dessous de 30 millions de tonnes, donc ça fait 25% de volume de récolte en moins.
En réalité, la situation est encore plus difficile parce que cette mauvaise année succède à 8 autres mauvaises années. Donc autant de mauvaises récoltes qui combinent leurs effets au fil du temps. En effet, après 8 années difficiles qui ont fortement pesé sur les trésoreries, la plupart des exploitations est encore aujourd'hui fragilisée avec un impact sur toute la filière. Ce qui constitue autant de handicap pour la saison prochaine.
Oui, c'est ça. Ça se situe dans un contexte où les céréaliers dégagent peu ou pas de revenus. Alors, il y a une très grande diversité des situations en fonction des régions, en fonction des différentes situations. Mais globalement, dans la moyenne, c'est ça. C'est 8 années très compliquées.
Alors, il y a un sigle que j'ai noté, parce que j'aurais aimé que vous m'expliquiez ça. RCAI, qu'est-ce que c'est ?
Revenu comptable avant impôt. C'est-à-dire, c'est quand vous faites la différence entre vos produits, ce que vous vendez en fait, vos ventes et vos dépenses, qu'elles soient des charges de l'année, les engrais, les semences, etc., ou bien le coût de l'équipement, les charges fixes, etc. Et puis vous faites la différence entre ce que vous rentrez et ce que vous sortez, et vous dégagez normalement un revenu comptable. Hein. Bon, ben, ce revenu comptable, il est négatif cette année. C'est-à-dire que l'agriculteur, il n'a pas vécu, il n'a pas dépensé d'argent pour vivre, et il doit encore sortir de sa poche pour boucher le trou, d'une certaine façon. Hein, c'est ça, le RCAI.
Mais ce n'est pas tout, parce que vous dites que c'est le troisième poste des exploitations dans la balance commerciale. Mm-hmm. Ça va être difficile, là.
Effectivement, c'est une question qui se pose. Les pays clients, pour le blé en tout cas français, se trouvent chez les pays voisins de l'Union européenne, qui sont des clients traditionnels acheteurs, et une partie pourra partir encore, notamment en Afrique du Nord ou même en Afrique de l'Ouest, chez des clients, des meuniers, qui connaissent bien la qualité des blés français, parce que si la quantité cette année n'est pas bonne, n'est pas importante, la qualité est très bonne. Donc,
ce que vous appelez le blé meunier.
Voilà, c'est ça. On produit un très bon blé meunier pour faire de la bonne farine qui fait du bon pain. Par contre, effectivement, on ne va pas être les seuls. Il y a d'autres pays qui peuvent produire des blés qui ressemblent à ceux-là. Et il est fort à parier qu'on soit en concurrence plus forte avec ces autres pays-là sur les destinations qu'on évoquait, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne.
Alors, une dernière question avant de vous laisser, parce que vous êtes attendu. Avec tout ce qu'on a décrit, est-ce que vous avez dégagé des pistes de solutions? Parce que moi, si je suis producteur et que je sais qu'il y a une association qui me représente, j'attends quand même à ce qu'on se penche sur mon cas.
Exactement. Ben, c'est ce qu'on a essayé de présenter avec Éric Thirouin, le président de l'association. C'est-à-dire que on a un plan d'urgence nécessaire pour faire face à la crise de cette année, à la catastrophe qu'on assiste. Donc c'est une série de mesures qu'on demande au gouvernement d'allègement des charges, notamment tout ce qui est taxes sur le foncier, tout ce qui est charges sociales, etc., sur ces sujets-là qui se prononcent rapidement, pour passer ce cap au niveau de la trésorerie des exploitations, au niveau du cash, quoi, tout simplement. Hein. Comme pour la crise Covid, on a pu injecter du cash dans l'économie. Mais on présente aussi un plan pour que la filière des céréales retrouve son lustre d'antan en déjà instaurant un système d'assurance aléa climatique qui existe mais qui n'est pas suffisamment pris par les agriculteurs. Ce système d'assurance permettrait une sécurité beaucoup plus importante des producteurs de grandes cultures dans leur entreprise en fait chaque année. Hein. Si on doit aller de plus en plus vers des aléas climatiques, vers des climats avec des problématiques marquées comme on a connu cette année, il faut pouvoir, les années difficiles comme ça, s'assurer quelque part à au moins 80% de ce qu'on produit habituellement.
Parce que vous craignez que le réchauffement climatique n'aggrave la situation.
Très possiblement, c'est difficile de dire. Mais en tout cas, quand on regarde l'évolution des choses, il y a de fortes chances que le changement climatique impacte nos productions.
Hein. Donc il faut anticiper ça.
Il faut anticiper ça, tout à fait. Il faut anticiper ça. Toutes les années ne seront pas mauvaises, hein, heureusement. Mais les années vont être beaucoup plus variables, probablement, et donc il faut pouvoir écréter, boucher les trous avec les hauts, hein. Et c'est le système des assurances finalement, un système d'assurance adapté à ces temps plus compliqués qu'il nous faut absolument mettre en place.
Je vous remercie.
Mais c'est un plaisir pour moi.
Allez. Allez, merci. Allez, merci. Nous étions au siège parisien de l'Assemblée générale des producteurs de blé. Il était aujourd'hui question des mauvaises récoltes 2020 dans le secteur des grandes cultures. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Nicolas Benida, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.